Bonjour à tous, même ceux qui sont très loin au fond, hein, vous pouvez vous rapprocher au cas où. Si ça vous intéresse. Oui, je parle à vous là-bas. Voilà, non, parce qu'on n'est pas nombreux, donc du coup, ça sert à rien de rester tout au fond, c'est un peu ridicule. Faut que ça soit un peu convivial quand même, c'est une petite rencontre sur la plus petite scène qui puisse exister aux Utopiaques, je pense. Je pense qu'on pourra pas faire plus petit. Donc merci à tous d'être aussi nombreux quand même dès le départ. Bienvenue à une rencontre avec Karina Rosenfeld qui est ici présente.
Bonjour.
Et voilà, nous allons parler avec Karina de son travail, de ses écrits, de plein de choses. Et puis, si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez surtout pas à me faire signe et à venir à côté de moi. Et puis, je vous passerai le micro pour poser des questions. Ce sera un peu plus interactif qu'un simple petit discours. Et puis, ce sera beaucoup plus fun pour nous aussi. Donc voilà, tout d'abord, Karina... je vais te demander de te présenter vaguement.
Alors vaguement, je suis Karina.
Non, quand même plus en détail.
Donc Karina Rosenfeld, auteur jeune, enfin j'aime pas trop dire jeunesse parce que je trouve que je touche tous les âges, donc c'est un petit peu réducteur, mais bon, lecture, littérature de l'imaginaire, et en essayant de créer des beaux voyages pour ceux qui ont envie de partir à travers mes pages.
D'accord. Quand est-ce que tu as commencé à écrire réellement de manière plus ou moins professionnelle ? Et comment ça t'est venu surtout ?
De façon vraiment professionnelle, c'est en 2008. J'écrivais pour moi depuis bien plus longtemps. Et en 2008, j'ai été publiée chez La Talente à Nantes, justement, avec le Mystère All Fit. Et suite à cette publication, les choses sont arrivées très vite pour moi, c'est-à-dire que sans que je demande trop rien, j'ai des éditeurs qui sont venus me trouver directement en me demandant de travailler pour eux. Donc, je vais pas dire non, hein. Donc, du coup, un peu le rêve qui se réalise, c'est-à-dire déjà d'être publié dans une maison d'édition que j'aimais. Et suite à ça, voilà, on vient me chercher. Bon, alors du coup, j'ai dit oui et j'ai commencé à accumuler plusieurs projets. Donc ça m'a pris plus de temps, forcément, et donc le métier que je faisais avant a commencé à m'intéresser moins, parce que tous les projets que j'avais en cours avec différents éditeurs et avec plein de possibilités intéressantes devenaient plus importantes pour moi.
Et la passion de l'écriture, elle t'est venue comment, en fait ?
Elle m'est venue très tôt. Elle m'est venue quand j'avais 8-9 ans, à peu près. Je sais pas, c'est pas tellement que je savais qu'écrire me plaisait comme ça du jour au lendemain, c'est un ensemble de choses. Déjà, j'étais en CM1, donc oui, ça remonte vraiment loin. Quand on a écrit un livre avec la classe dans laquelle j'étais, on a écrit une histoire et chacun avait une partie de l'histoire à écrire et ça m'a beaucoup plu comme travail. Je pense que ça a été un élément important de mon parcours parce que d'un seul coup, j'étais confrontée à l'écriture et je me rendais compte que ça me plaisait. Et ça aurait pu s'arrêter là, hein, comme on fait des tas de choses à l'école, on fait des masques en pâte à sel et des trucs comme ça. Et puis bon, ça ne veut pas dire qu'on devient professionnel de la pâte à sel. Mais après ça, j'ai lu L'Armoire magique des Chroniques de Narnia. Et comme la petite Lucie qui passait dans un placard et qui arrivait dans un monde magique, j'avais envie de vivre la même chose qu'elle. Je crois que j'ai jamais été tellement satisfaite du quotidien et de la vie quotidienne telle qu'on la vit tous les jours. Et je trouvais que justement, cette possibilité de passer dans un monde merveilleux, waouh quoi, c'était... malheureusement, comme je pouvais pas le vivre ou ne le vivre qu'à travers les livres, mais c'était pas vraiment moi. C'était quand même un autre personnage qui avait un autre nom et c'était pas je. J'ai commencé à écrire des histoires et j'étais je dans mes histoires. C'était moi qui les vivais. Dans un cahier avec un crayon, un papier et en fait le cahier c'était l'armoire magique, c'était mon passage vers un autre monde et c'était ma façon à moi d'inventer des voyages extraordinaires et puis ça ne m'a jamais quitté ensuite.
Et tu as d'abord publié des ce qu'on appelle des monographies, des histoires qui se déroulent en un seul roman. Et très vite, tu es passé quand même à des choses beaucoup plus conséquentes. Est-ce que c'est parce que le format le simple format d'un seul livre ne te convenait plus, ou c'est parce que dès le départ tu t'es dit que je vais faire durer sur plusieurs tomes une saga, ou
Je sais pas si j'y réfléchis de façon vraiment calculée, on va dire. Je pense que quand j'ai eu l'idée de la trilogie pour la quête des livres monde, j'avais l'idée de 3 livres à trouver et que c'était chacun était un parcours et une aventure différente. Donc ça s'est trouvé comme ça, je me disais un livre monde à retrouver par tome. Voilà, c'était un découpage qui était tellement logique et évident que c'est pas du tout venu en me disant « Ah, je vais me lancer dans une saga, je vais faire plein de bouquins avec les mêmes personnages ». C'était pas du tout calculé comme ça. C'était vraiment l'idée que j'avais qui s'y prêtait vraiment. Donc, on va dire, c'était presque naturel pour moi de me dire chaque tome va raconter une aventure et pour trouver un livre monde. Et comme il y en a 3 à trouver, ça fera 3 mondes. J'aurais eu l'idée de faire 10 livres monde, j'aurais peut-être fait 10 tomes, hein, mais en même temps, c'est pas trop mon truc non plus, les sagas à rallonge. Je crois pas que j'arriverai à faire 15 tomes sur la même aventure. Donc 3, c'était très bien. Et puis. Et quand j'ai proposé l'idée à l'éditeur, tout de suite, ça l'a branché. Il m'a dit, alors ça, voilà, ça va marcher, c'est génial, vas-y. Donc, je me suis dit, bon, bah alors, on y va. Hein, et voilà. Mais c'était plus dans... C'est plus l'histoire elle-même qui a dicté la structure en 3 tomes qu'un calcul préalable de ma part.
Et pour Phoenix, par exemple, ou d'Oregon, c'était la même démarche ou c'était...
Pas complètement. Alors d'Oregon, là, je suis partie d'un truc où je savais pas du tout où j'allais. Donc j'ai proposé l'idée à mon éditeur qui ça l'a branché. Je lui ai fait lire les premiers chapitres, m'a dit ça me plaît. Et tu veux le faire en combien de tomes? Et j'ai dit je sais pas. Je partais dans un voyage et je savais pas encore où il allait m'emmener. Et donc je lui ai dit je sais pas. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4. Il m'a dit ben peu importe, hein, on te suivra autant qu'il faudra. Et donc on a lancé la saga d'Oregon sans préciser c'était une duologie, une trilogie, on n'a rien dit. On a dit au début la nouvelle saga, comme ça restait un peu vague. Et puis il y a un moment où je me suis rendu compte que ça ferait 3 tomes quand j'étais dans l'écriture, du 2 surtout. Je me suis dit bon j'aurais pas tout fini de raconter dans le 2 et là ça m'est apparu clairement que ce serait une trilogie. Mais quand je me suis lancée dans l'écriture, je suis partie un peu comme ça sans trop savoir donc... Donc ça aurait pu faire un tome aussi, hein. J'aurais peut-être pu arriver au bout de mon histoire à la fin du premier, puis on se serait arrêté là, et en fait, non, ça a continué, et puis voilà. Donc en fait, autant pour la quête des livres mondes, c'était une structure en 3 tomes qui s'imposait, autant après, depuis, je me laisse un petit peu aller au gré de l'histoire qui se construit elle-même, sans chercher à la brider non plus... ou à l'étirer pour me dire oh là là j'avais promis tant de tomes et finalement ça fera pas tant de tomes donc il faut que je remplisse non je préfère à la limite dire je sais pas encore combien on verra et puis écrire et puis ça trouvera sa place à un moment ou à un autre.
D'accord. Et comment tu construis tes univers à partir de ton idée? Parce que tu nous emmènes quand même dans des univers qui sont à la base très réels puis qui petit à petit dérivent. On a le point d'ancrage de la réalité. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué d'un point de vue très contemporain, c'est les insertions Facebook que tu faisais, par exemple, dans Phoenix, ou l'allusion à eBay pour la quête du livre-monde, où tu insères carrément des petites incises de réalité vraiment pragmatique qui lient vraiment le lecteur au monde réel. Puis après, tu dérives. Mais comment tu choisis tes points d'ancrage et... Est-ce que tu les travailles réellement ou au bout d'un moment, ça dérive naturellement vers un univers qui n'est plus une réalité, vraiment un voyage imaginaire pur?
Moi, le but, c'est l'imaginaire. C'est le point à atteindre. Et pour reparler de Narnia, justement, on parle dans Narnia, on part de la réalité. Même si ça se passe dans les années 40, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, tout le début, tous les premiers chapitres décrivent une réalité, à savoir que les enfants ont été évacués de Londres au moment du bombardement allemand pour les protéger, la jeune génération, pour éviter qu'ils meurent. Les parents restaient sur place et il y avait des trains entiers d'enfants qui étaient remplis, qui partaient dans les campagnes, dans les belles mansions de la campagne anglaise, où des gens là-bas les recueillaient le temps de la guerre pour éviter les bombardements. Donc ça, c'est un point d'ancrage réel. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus fascinant, finalement. C'est de partir de la réalité où on reconnaît notre monde quotidien ou quelque chose qui fait vraiment partie de ce qu'on vit, qu'on conçoit, qu'on comprend, qu'on englobe et qui fait... Voilà. on a une compréhension quasi instantanée de la chose et puis dériver vers autre chose. Parce que c'est un peu comme un rêve, on s'endort, on quitte notre réalité pour aller dans un autre monde, et c'est exactement ça. C'est vraiment, comme je disais, ce quotidien que je trouve pas hyper passionnant, ben j'en pars, et il est pas hyper passionnant jusqu'à ce moment où ça bascule dans autre chose, et là il devient intéressant parce que on change de point de vue, on change de fonctionnement, et c'est vrai que c'est quelque chose de quasiment systématique chez moi. Mais je pense que quand je dis que ce livre m'a marqué, L'Armoire Magique, c'est vraiment pas anodin, hein. Je crois que vraiment ça a dicté un petit peu tout cet imaginaire que je me suis fondé moi-même, à savoir partir du quotidien, d'un élément qui peut être ennuyeux, dangereux, lourd à porter parce que la vie n'est pas toujours facile, et puis basculer dans quelque chose qui peut être même plus lourd et plus dangereux et plus difficile encore. Mais parce qu'on est dans un monde différent, ça prend pas les mêmes proportions et ça devient une aventure.
Et au niveau de tes personnages, comment tu les construis, comment tu les imagines? Ils viennent directement ou tu as quand même des archétypes, ce qu'on pourrait appeler des archétypes qui sont présents dès l'écriture du synopsis, ou ils arrivent naturellement et au fur et à mesure tu arrives à te dire tel personnage ressemblera à ça?
Non, je fais pas de synopsis déjà. Je suis au rang de ça, je suis nulle pour les synopsis dans mes livres, d'autant plus que j'invente 90% de l'histoire quand je l'écris. Donc quand on me dit raconte-moi l'histoire avant que j'ai commencé, c'est à l'écrire. Je vais vraiment avoir que quelques petits éléments éparpillés à pouvoir raconter parce que j'ai une idée comme ça qui se forme, qui est assez nébuleuse. Et en fait, tous les détails et tout ça, ça va se construire au fur et à mesure que j'écris le livre et que j'imagine et que j'ai les images qui vont venir s'imposer derrière mes yeux, comme je dis, ils sont là dans ma tête. Et je décris les images que je vois défiler dans ma tête, hein, et elles ne défilent qu'au moment où je suis en train d'écrire la scène. Je suis rarement en train d'anticiper 3 mois à l'avance, à part peut-être quelques scènes clés vraiment où je sais que je veux arriver à cette scène à un moment. Mais c'est vraiment des scènes... voilà, c'est une ou deux, pas plus. Donc mes personnages, à part le fait de choisir si c'est une fille, un garçon, quel âge ils vont avoir, les grands traits physiques, et encore, j'aime pas faire des descriptions trop poussées, au poil près, de barbe, des trucs comme ça. J'aime bien laisser une part d'imaginaire pour le lecteur, pour qu'il puisse se créer aussi le personnage. Alors on sait qu'il est brun, ou qu'elle est brune, ou qu'elle est blonde, ou qu'il a les yeux de telle couleur. Voilà... Mais à part ça, je vais pas décrire les traits exactement. Je vais rarement dire s'il a un gros nez, un petit nez ou des choses comme ça. Tout ça, je ne le décris pas. J'aime bien qu'on ait une image que chacun peut se forger du personnage. Par contre, au niveau du caractère, ils se construisent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que je lance l'écriture et c'est eux-mêmes qui vont m'embarquer. Qui vont me dire... Il y a même des moments où ils vont me forcer à écrire des choses, où ils vont me dire « Ah non, ça, tu peux pas le faire, ça me ressemble pas. »
Tu peux donner des exemples pour,
oui,
bah, passer, pour tes lecteurs, c'est...
Bah, dans La Quête des Livres-Mondes, c'est un des exemples les plus flagrants, c'est que le personnage de Léa, je l'ai créé au début du roman du tome 1 pour montrer que le héros, Zek, était amoureux de cette fille et qu'elle lui mettait des râteaux. Voilà. Et elle ne devait à la limite servir qu'à ça, pour montrer qu'il allait peut-être devenir le héros d'une grande aventure, mais que c'était un garçon comme les autres, et qu'il ne sait pas parce qu'il allait être le héros d'une grande aventure, qu'il claquait des doigts et que les filles tombaient à ses pieds comme ça. Et donc, il se prenait des râteaux de cette fille. Elle ne voulait pas lui, elle ne le trouvait pas intéressant. Et donc, voilà, il avait son pauvre petit cœur qui était brisé. Et elle ne devait servir vraiment qu'à ça. C'était le prétexte pour expliquer le contexte de vie de ce garçon, pour dire, voilà, il a 16 ans, il va au lycée, il est amoureux d'une fille qu'il ne regarde même pas, et puis... voilà d'où on part dans l'histoire. Et elle m'a dit « Ah non, 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 tu vas pas me donner le rôle de potiche, ça m'intéresse pas du tout. » Et je me souviendrai toute ma vie, j'étais dans ma douche, on va tout savoir, attention. J'étais dans ma douche et d'un seul coup, c'est comme si je me sens obligée de me dire « Ah non, Léa, elle va avoir un autre rôle. » Et puis je me dis « Non, je peux pas faire ça. » Ça veut dire que si je lui donne ce rôle-là dans le roman, si elle devient le personnage, je vais pas... spoiler pour les gens qui l'ont pas lu, mais bon, pour les gens qui l'ont lu, je pense qu'ils vont comprendre à un moment le retournement de situation de cette fille, qui elle devient. Et je me disais, je peux pas, parce que dans ces cas-là, ce personnage, si elle vient et si elle devient ça, il va falloir que je change toute une partie de la ligne de l'histoire. Même si elle est floue, j'avais pas du tout prévu ça, quoi. Et elle était là, c'était vraiment ce côté non, 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 je serai pas la blonde de service qu'on met dans un coin et qui sert à rien. Je veux avoir un rôle, je veux exister dans cette histoire. Et une fois que l'idée était là, je pouvais plus la chasser. C'était comme si elle m'avait imposé cette vision-là et que ça rendait les choses plus intéressantes, du coup, forcément. Et qu'en étant plus intéressante, je me disais, bah, tant pis, je vais partir dans cette direction. Et alors, je regrette pas du tout, du tout. Parce que justement, elle est devenue intéressante, elle a apporté quelque chose dans l'histoire, elle a un rôle qui grandit, qui devient essentiel au fil de la trilogie. Et voilà, comme quoi un personnage que j'avais pas du tout imaginé prendre cette importance est devenu un personnage pivot de l'histoire. Et c'est elle qui a décidé. Hein. À moi, pendant un moment, j'ai lutté, je me disais non, c'est pas du tout prévu comme ça, ça devient fou si j'imagine qu'elle est ça. C'est... toutes les implications, et je voyais comme un jeu de domino où tout tombe, je me disais alors si elle est ça, ça fait ça, ça fait ça, ça. Et c'était ben si.
Et je voulais revenir sur l'appellation tout au début, désolé si c'est un peu déconstruit, par rapport à l'appellation littérature jeunesse, est-ce que tu as des codes à respecter ou est-ce que ça vient naturellement et ton éditeur te dit, la littérature jeunesse, tes éditeurs te disent tu dois qu'on...
Non, j'ai aucun ordre entre guillemets de mes éditeurs, rien du tout. Je pense que le fait que ça devient une littérature jeunesse est aussi dicté par le fait que le personnage ait un âge. Voilà, il a 14 ans, il a 16 ans, il a 20 ans, et les préoccupations qu'il va avoir en fonction de son âge vont trouver l'écho dans une catégorie de lecteurs, hein, soit qui ont le même âge, soit qui aiment ce genre de littérature parce qu'on est tous restés jeunes dans notre tête, forcément. Hein, et donc voilà, mais alors j'ai vraiment aucune directive de mes éditeurs, j'ai vraiment toute latitude pour faire ce que je veux. Du coup, ils se construisent d'eux-mêmes. J'envoie le manuscrit à l'éditeur, voilà, il le prend comme ça. Et j'ai jamais eu ni de censure ni de remaniement à ce niveau-là. Hein. Vraiment, je suis. Alors, peut-être que je suis gâtée, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais pour mon cas, en tout cas, ça a toujours été. Voilà, j'envoie le manuscrit et pouf, à part les quelques petites corrections de style, de répétition et trucs qui peuvent traîner. On m'a jamais demandé de changer ni un personnage, ni une scène, ni rien du tout. Je suis entièrement libre de... Merci.
Et on te connaît aussi scénariste, totalement.
Beaucoup moins, quand même.
Beaucoup moins, mais on en discutait tout à l'heure, avant que la conférence commence. Est-ce que le travail d'écriture pour des scénarios, d'abord, je pense que tu peux éclairer le public sur ce que tu fais en tant que scénariste. Est-ce que le principe d'écriture de scénarios diffère beaucoup de l'écriture des romans ?
Ah, complètement. J'écris de temps en temps des scénarios de dessins animés. Et c'est très différent, déjà parce que ça prend beaucoup moins de temps à écrire. Il n'y a pas de description. Ça va être au réalisateur de donner l'image, donc c'est pas à l'auteur de le faire, c'est beaucoup de dialogue. On peut préciser qu'on est dans une chambre, on peut préciser un détail pour dire là, à ce moment-là, il faut que le lit soit défait parce que ça va être important et tout, mais en réalité, on va pas expliquer qu'il y a des boiseries au mur, on va pas dire que la plante verte était en train de décliner parce qu'on voyait qu'elle avait pas été arrosée depuis longtemps, ou des détails qu'on pourrait donner dans un roman pour poser une scène et pour donner le cadre et pour expliquer par des petits détails comme ça où on est, pourquoi on est là. Un scénario, c'est principalement du dialogue. Et après, ce sera au réalisateur, au dessinateur, quand c'est un dessin animé, de créer l'image qui est derrière, et on s'en occupe pas du tout. Donc c'est pas du tout le même travail. Ce qui n'empêche pas le scénario aussi d'être un travail intéressant et que je trouve assez ludique, finalement. Parce que justement, ça va vite.
Est-ce que l'un nourrit pas l'autre, justement ? Est-ce que maintenant que tu fais du scénario aussi, ça n'a pas nourri ton écriture, justement, sur certains aspects purement littéraires ou certains réflexes que tu n'as plus
Non, déjà, je pense que j'écris pas encore, en tout cas, assez de scénario pour pouvoir... Majoritairement, j'écris des romans. Donc, c'est quand même là-dessus que je suis la plus... que je passe le plus de temps. Mais... Non, c'est. Je pense que ça peut faire des progrès sur les dialogues, ça c'est sûr, parce que comme on est beaucoup dans le dialogue, on est obligé qu'il soit efficace, qu'il soit direct au but, qu'il soit. Là, on peut imaginer que ça pourrait me faire des progrès sur les dialogues. Maintenant, quand j'écris Geronimo Stilton, c'est vraiment quand même pour les tout petits. Et quand j'écris Phoenix, c'est pour une tranche d'âge différente. Donc, je vais pas écrire un scénario de Geronimo Stilton comme j'écris un scénario de Phoenix, quoi.
Ça pourrait être drôle.
Et quand on fait parler une souris, c'est pas les mêmes réflexes.
Et au point de vue purement personnel, quelles sont tes références, en dehors de ton écriture, qui nourrissent ton écriture, en dehors de l'armoire magique que tu as déjà citée quels sont vraiment ce qui te motive à écrire et qui te donne envie?
Alors je pense qu'un auteur, c'est une éponge. On a plein de trucs qu'on aime, qu'on prend, et puis c'est là en nous, et parfois même on a oublié que c'était là, et puis à un moment ça ressort d'une manière ou d'une autre, et toutes les influences, je pense, finissent par se voir. Moi j'adore les super-héros, et c'est pour ça que mes personnages ont souvent des pouvoirs, hein. Ça, je le dis à chaque fois, c'est pas du tout... Je reconnais parfaitement la filiation avec les comic books dont je me suis abreuvée quand j'étais jeune. Je suis une grande fan de Star Trek, depuis toute petite, hein. Spock, Kirk, tout ça, sur 5U la 5, ça a bercé aussi mes jeunes années, donc c'est vrai que c'est des épisodes que j'ai vus en boucle après The Next Generation et tout ça, donc j'ai une grosse influence de Star Trek, les missions Space, de Final Frontier et tout, ça c'est un gros bloc de ma culture, on va dire. Tous les livres que j'ai pu lire, j'en ai lu un paquet, et même si je me souviens pas de tout, il y avait un truc comme ça qui m'est revenu une fois et ça m'a presque choqué, c'est que j'ai écrit le mystère Olphit, donc O-L-P-H-I-T-E. Et donc c'est des personnages qui ont un pouvoir particulier qui s'appellent des Olphites. Bon, voilà, alors les gens me disent, ce mot, d'où tu le sors? Je dis, je sais pas, je l'ai inventé, il m'est venu comme ça en tête, pouf. Et un jour, en passant chez mes parents, je vois dans la bibliothèque de chez mes parents un livre qui y était depuis que je suis toute petite, que je n'ai jamais lu. Attention, je ne sais absolument pas de quoi je parle, de quoi ça parle. Je veux dire, si on me dit ce livre-là, je ne connais pas l'histoire, je ne sais pas, je pense que c'est de la SF, mais je ne suis même pas sûre, qui s'appelle le canal Ophit, O-P-H-I-T-E. Je l'ai complètement oublié, ce bouquin. Dans ma tête, il n'existait même pas. Et un jour, je passe devant et je vois le canal Ophit. Et je me rends compte que j'ai eu ce bouquin devant mes yeux, enfin la tranche du bouquin devant mes yeux dans la bibliothèque de mes parents, toute ma jeunesse. Et même si je ne l'ai pas ouvert, j'ai vu le titre, mais je ne sais pas combien de fois. Et que certainement, je l'ai oublié. Hein, voilà. Et puis, à un moment, je me dis, oh, j'ai eu un super nom, j'ai inventé les personnages qui s'appellent des Olphites. Oh! Et ben non, en fait, je n'ai pas complètement inventé. Et c'était là, en moi, quelque part. Et je pense que ça, c'est le principe. Quand on me dit d'où viennent les idées, elles viennent de partout. Hein. C'est des petites miettes de partout, tout ce qu'on peut prendre, qui nous ont marqué. Là, en ce moment, je suis plongée dans la série Fringe, qui parle d'univers parallèle, de lignes temporelles. Moi, j'adore toutes les histoires de lignes temporelles. Hein. Pour les gens qui ont lu plusieurs de mes livres, ils vont se rendre compte que j'aime bien parler de mémoire, de temps, de tout ça. Et donc, j'adore les thèmes et tout. Et j'ai toujours aimé les histoires de mondes parallèles. Et là, quand je vois cette série, je me dis, oh, faut que j'écrive une histoire de monde parallèle. Et en même temps, je sais que je ne peux pas l'écrire tout de suite parce que je suis trop plongée dans la série et que je vais faire un copier-coller si j'en mets. Mais je me dis, peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'aurai laissé la série derrière moi, ça aura mûri, ça aura cogité, j'aurai digéré. Et pouf, je vais avoir une idée en me disant, mais en même temps, il y aura certainement des choses qui viennent de cette série-là, malgré moi, parce que je m'en serais imprégnée, je l'aurais vue, je l'aurais aimée, etc.
Et surtout, il y a Spock dedans.
Donc, voilà.
Et en parlant justement de ton actualité future, qu'est-ce qu'il y a de prévu cette année ou dans les prochaines années?
Alors là, pour cette année, c'est fini. Là, 2013, on touche à sa fin. J'ai sorti Les Sentinelles du Futur en septembre. C'était ma dernière parution pour l'année. Février 2014, il y a un prochain roman dans la collection R, premier tome d'une duologie qui s'appelle La Symphonie des Abysses. Voilà, alors je l'ai annoncé sur mon Facebook hier soir. Il y a plein de gens qui se sont dit oh, « histoire de sirène ». Alors, je peux dire aux gens, ce n'est pas du tout une histoire de sirène.
C'est une histoire de quoi, alors?
Alors, c'est une histoire... Constance Joly-Girard, qui a travaillé sur le manuscrit, m'a dit c'est une allégorie. Donc, on va dire c'est une allégorie de sur les interdits, sur l'enfermement, sur le regard des autres et sur comment affirmer sa personnalité malgré tout ça. Donc là, pour le coup, je ne fais pas de référence à la réalité. Il n'y a pas de point d'ancrage dans la réalité. On est dans un monde qui pourrait être un futur, un passé, une autre planète, on ne sait pas. Voilà, ça n'a pas d'importance. Un monde clos, enfermé, enfermant. Et pourtant, qui est dans un paysage paradisiaque, puisqu'on est sur un atoll avec des palmiers, le sable blanc, la mer bleue. Et donc, c'est un peu l'enfer sous les tropiques. Et voilà. Et il y a des gens qui sont là, qui vivent là, sous des et qui sont obligés d'avoir un certain comportement. Il y a des règles très strictes. Et ces gens-là ne collent pas à ces règles-là. Elles sont différentes, elles ont besoin d'un souffle de liberté, mais forcément, on les regarde, on les juge, et voilà. Alors, bon, il y a un mystère qui plane sur ce lieu. Quel est-il? Pourquoi est-ce qu'il existe? Quelle est sa finalité? Et ça, forcément, on le saura dans le tome 2. mais je mets en place tous ces éléments-là. Et si ça s'appelle la Symphonie des Abysses, c'est parce que ça a un rapport avec la musique et la mer, mais je n'en dirai pas plus. Mais il n'y a pas de sirène. Désolée pour les gens qui ont cru qu'il y aurait une histoire de sirène, ce n'est pas du tout une histoire de sirène. Il n'y a pas de poisson, rien.
D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans le public? Je vois qu'il y a des livres qui sont là. N'hésitez pas.
Je fais trop peur, c'est pour ça.
Oui, je crois qu'on...
Oui, Daniel, vas-y.
Attends, Daniel.
Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un domaine dans l'imaginaire sur lequel tu te refuses d'écrire? Parce que tu te sens pas à l'aise, parce que c'est quelque chose qui te parle pas
Alors, je peux pas dire que je refuse. Je suis jamais dans le refus total en me disant « Ah non, ça, jamais !» Genre, avec une moue de dégoût. Non, je refuse rien, mais je pense effectivement qu'il y a des choses que je serais incapable d'écrire. Vraiment incapable d'écrire. Ben, par exemple... La pure fantaisie avec les elfes, les nains, les machins et tout ça, je pense sincèrement que je suis pas capable d'écrire ça. Déjà parce que j'en ai pas lu tant que ça. Alors bien sûr, il y a le monument des Seigneurs des Anneaux que j'ai lu 10 fois, j'ai vu les films, et je pense peut-être que justement parce que pour moi c'est un sommet, je me dis mais jamais j'oserais me confronter à un truc pareil, quoi. Je pourrais faire que moins bien à mes yeux. Et je maîtrise pas assez les codes de ce genre d'univers, hein, pour pouvoir me rentrer dedans. Alors ça veut pas dire qu'un jour ça me prendra pas, hein. Peut-être qu'un jour je vais me réveiller en me disant « Oh, j'ai une idée géniale, et il faut qu'il y ait des elfes et des nains et des sorciers et des machins dedans », mais j'ai rien contre à la base, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, je sens incapable d'écrire une histoire là-dessus. Heureusement les choses évoluent, heureusement je continue à lire et à apprendre des choses et à essayer d'ouvrir mes horizons au maximum, et que dans 10 ans, si je suis encore là et si j'ai encore envie d'écrire, c'est peut-être ça que j'aurais envie d'écrire. Mais là, aujourd'hui, non, ça c'est la pure fantaisie, comme ça, je m'en sens pas du tout. C'est pas que j'aime pas ou autre, hein, c'est juste que je m'en sens incapable.
Et au contraire, est-ce qu'il y a d'autres univers dans lesquels tu rêverais de réécrire, mais qui pour l'instant te semblent un peu difficiles d'accès?
Ouais, j'aimerais bien écrire un space opéra un jour. Mais alors, partir dans des mondes, hein, je prends souvent l'exemple de Pierre Bordage que j'adore, j'en ai lu beaucoup. Voilà, quand on écrit une quincalogie comme La Fraternité du Panka, où il invente tellement de planètes différentes, tellement d'univers complètement différents les uns des autres, ça me fait rêver. Mais je me dis, j'aimerais bien pouvoir écrire un truc comme ça un jour, mais alors je m'en sens pas capable encore. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose, je me dis, je me lancerai peut-être un jour, j'ai un petit début d'idée qui pourrait prendre et qui pourrait être pas mal, qui travaille dans ma tête depuis plusieurs années. Mais je sais que ça fait des années que j'ai cette idée, je sais qu'un jour je vais finir par l'écrire, mais là pour l'instant, je me sens encore trop petite pour m'attaquer à autant de vastitude, on va dire. C'est vertigineux. Donc du coup, peut-être un jour, peut-être que j'aurai le courage ou je me sentirai prête. J'ai envie, un jour j'aimerais bien pouvoir l'écrire, cette histoire, elle est là, elle est en moi, mais voilà, je peux pas encore.
Est-ce qu'il y a encore une question?
Vas-y, Gabriel aussi.
Est-ce que vous lisez des dystopies et est-ce que vous aimeriez en écrire un jour?
Alors, moi j'adore en lire, hein, j'en ai lu plein. Je crois que j'ai lu toutes les grosses dystopies qui sont sorties ces dernières années. Je crois que je les ai toutes lues ou presque. Je sais que Glenn Tavnek, le directeur de collection de la collection R, quand il a présenté la Symphonie des Abysses, il a dit dystopie parce qu'on pourrait imaginer que ça se passe dans un monde plus tard. Alors, je ne suis pas complètement d'accord avec lui parce que moi, je pars du principe que ça pourrait être aussi sur une autre planète. Enfin, voilà, on ne sait pas où c'est. C'est dans une galaxie far, far away, quoi. Ça pourrait être un passé, un futur, une dimension différente. Voilà, on ne sait pas. Et je ne veux pas qu'on sache, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le monde tel qu'il est au moment où je l'écris, d'où il vient, dans quelle période il se situe. C'est pas mon propos. Donc en réalité, c'est pas vraiment une dystopie parce que je pars pas d'un post-apocalyptique où le monde a été obligé de s'adapter avec des règles contraignantes, avec des choses comme ça, même s'il y a des règles contraignantes dans ce livre. Maintenant, je pense que j'en ai lu tellement, mais vraiment tellement. J'ai lu Divergent, j'ai lu Matched, je sais plus le titre en français, parce qu'il y en a plein que j'ai lu en anglais. J'ai lu, voilà, promise, merci. J'ai lu là, celui où on se fait opérer pour enlever l'amour, Delirium. J'ai lu, je sais plus, mais j'en ai lu plein. Enfin, j'en ai, voilà, j'en ai avalé. Fusion, non, celui d'avant c'était Fuse. Voilà, c'est ça, c'est le premier tome. Pur, voilà, c'est ça. Et le deuxième tome, c'est Fuse. Voilà, tout ça. Et il y en a, et j'en ai trouvé. Alors, il y en a que j'ai moins aimé, hein, comme tout le monde. J'ai aussi mes avis et des trucs que je... Puis il y en a d'autres dans lesquels j'ai plongé complètement et que j'ai adoré. Et en fait, j'en ai lu tellement que j'ai l'impression, à mes yeux, pour l'instant, tout a été écrit. Ça ferait... Si j'avais une idée là-dessus, ce serait forcément de la redite. Il y a eu tellement de bonnes choses de faites. Il y en a eu tellement, en plus, tout court, que en faire une de plus, là, pour l'instant, ça me paraît pas indispensable. Voilà.
Gabriel.
Ouais, un truc dont on parlait tout à l'heure, en fait, à table, pour tout vous dire. Est-ce que la littérature jeunesse est déconsidérée par certaines personnes? Et est-ce qu'on te demande de temps en temps, je sais que oui, quand tu vas écrire un roman adulte?
Ah, on me la pose
en
tout
fait,
le temps,
est-ce qu'en France, on considère que la littérature jeunesse, c'est un petit peu moins bien ou un peu moins bien considérée que la littérature adulte?
Ah, mais pour certains, il y a même des gens aux yeux desquels je suis même pas un écrivain, hein. Pourtant, je fais le même travail, hein. Écrire un livre de 500 pages jeunesse ou écrire un livre de 500 pages vieillesse, c'est le même travail, hein. Donc, mais il y a des gens pour qui, quand on écrit, je pense que pour certains, la jeunesse, c'est rester oui-oui, quoi. C'est ah, t'es auteur pour enfants, t'écris oui-oui. Non, c'est pas trop l'impression que ça me donne, mais bon, après, si t'as envie de croire ça, reste dans ton petit univers étriqué et tout. Mais oui, il y a plein de gens, et à chaque fois. Et pourquoi tu ne veux pas nous faire un roman pour adultes? Je dis, mais moi, j'écris aussi pour les adultes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas écrit interdit aux adultes sur les couvertures de mes bouquins. Et j'ai énormément d'adultes qui me lisent quand je les vois au salon, et des mamans, et des papas. Et, voilà, et même moi, je lis beaucoup littérature jeunesse, et j'ai pas l'impression d'être une attardée mentale pour autant. Donc, j'écris pour les adultes. Voilà, j'écris pour tous les gens qui ont envie de me lire, qui ont envie de suivre les aventures de mes personnages. Après, il y a des gens qui aiment la littérature jeunesse et qui aiment pas mes livres non plus, hein, donc qui aiment pas mon style, qui aiment pas mon rythme, qui aiment pas mes univers, qui aiment pas, voilà. Donc je pense qu'après c'est une question de goût. Mais oui, on me demande si un jour, mais t'as pas encore envie d'écrire un livre pour adultes, ou alors en plus sous-genre littérature jeunesse, sous-genre littérature de l'imaginaire. Donc je suis en sous-sous-genre. Donc je n'aurai jamais le Goncourt, mais je m'en passerai.
En même temps, bon. Est-ce qu'il y a une autre question?
Bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez dit que votre éditeur publiait vos. Vous nous avez dit que votre éditeur publiait vos récits sans censure. Est-ce que vous imposez une certaine censure ou des limites?
Je me suis souvent posé la question. Je pense qu'on s'impose toujours une censure, pas forcément consciente. C'est-à-dire que je me dis pas, tiens, ça, je m'interdis de l'écrire parce que, ah, berk. Mais je crois qu'il y a des choses que je veux peut-être pas aborder parce que, comme je le disais, je m'en sens pas capable. Il y a des sujets où je considère que c'est pas à moi d'en parler parce que je m'y connais pas assez bien et que je vais pas... Voilà, je vais... Moi, j'ai aucun problème pour qu'on écrive des histoires avec des drogués, des prostituées, des trucs comme ça, mais vraiment aucun. Mais je saurais pas écrire ça parce que c'est pas... Là, pour le coup, je peux pas me transposer dans cette situation. Voilà, c'est... Et j'admire des gens, soit qui l'ont vécu et qui sont capables d'en parler, soit qui l'ont pas vécu et qui sont aussi capables d'en parler. Donc, arriver à se projeter là-dedans, moi, je peux pas, quoi. C'est... Alors, je sais pas si c'est pas une censure ou c'est peut-être être limité, tout simplement. On a ses limites, hein. Il y a des choses qu'on peut explorer et d'autres non. Ça, je peux pas. Il y a peut-être des choses pour lesquelles je me censure aussi, mais je le fais pas en me disant non, ça je peux pas l'écrire au moment où j'ai l'idée. J'écris toutes les idées que j'ai envie d'écrire, mais il y a peut-être des idées que j'aurai jamais parce que dans mon esprit je peux pas formuler une chose pareille. Mais je dirais alors dans ces cas-là que c'est de la censure complètement inconsciente, c'est-à-dire que ce serait plutôt inhérent à ma personnalité qui fait que ça je l'écrirai pas parce que c'est pas moi, tout simplement.
Est-ce qu'il y a une autre question?
C'est parce que je fais trop peur aux gens.
Oui.
J'ai
c'est
l'habitude.
Vrai que tu as mangé beaucoup de gens quand on était au restaurant.
Je mange les gens, je mange les gens, les lecteurs.
C'est que maman, hein, vous aurez jamais ça sur une aussi petite scène.
Là, c'est intime, c'est cool, vous pouvez
c'est
y aller.
Cool,
hein.
Non.
Vous écrivez donc des scénarios pour les dessins animés, vous avez dit, et puis des livres pour différents âges, on va dire. Est-ce que la gymnastique, elle est différente pour travailler sur différents âges, en fait ?
C'est forcément différent, mais je ne le prends pas comme une contrainte. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne crois pas qu'une histoire que je vais écrire pour les 7-8 ans, je vais l'écrire de la même façon que quand j'écris Phoenix, qui s'adresse quand même à du young adulte, donc du 15-25. C'est pas les mêmes ficelles d'écriture, c'est pas les mêmes problématiques. Mais par contre, je pense pas que ce soit une contrainte. C'est-à-dire que c'est pas plus difficile pour moi d'écrire un 7-8 ans qu'un 17-18 ans. C'est juste, comme je le disais au début, je pense qu'en réalité, c'est l'âge du personnage que je vais écrire qui va conditionner l'action, tout simplement. Donc quand j'écris un personnage qui a 20 ans, ses préoccupations, il va à la fac, il apprend un métier, et comment il vit l'amour, comment il vit les rencontres avec les gens, etc. À 20 ans et à 8 ans, c'est pas du tout les mêmes choses. Donc je crois que c'est le personnage tel que je vais le créer au départ en me disant il a tel âge, il vit dans tel univers, c'est ça qui va, c'est de ça dont va découler le reste de l'histoire. Donc pour moi, passer d'un petit mini-soon pour les primaires à un collection R pour les young adultes, déjà j'y apporte le même travail et le même plaisir, mais c'est pas une gymnastique dans le sens où ça me demande pas un conditionnement en me disant attention, là je vais écrire pour les 7-8 ans. Vite, je vais à la sortie de l'école primaire pour me rappeler ce que c'est les petites 7-8 ans ou un truc comme ça. Non, c'est comme je dis, je crois que l'histoire, elle découle vraiment de l'âge du personnage. Et je me dis, ben voilà, quand on a 8 ans, c'est ça les préoccupations quand on a 8 ans et les rapports avec les copains et les copines et les parents. Et quand on a 14 ans, c'est ça. Et quand on a 20 ans, c'est ça. Et du coup, elles sont pas les mêmes, elles évoluent. Et ça va aller tout seul ensuite. Bon, après, il faut quand même que je me fasse un effort en me disant quand j'avais 8 ans ou... voilà, mais... C'est le même effort, j'ai plus 20 ans non plus, donc quand j'écris un personnage de 20 ans, c'est pareil, il faut que je me souvienne comment c'était quand j'avais 20 ans. Ça fait longtemps que j'ai plus 20 ans, hélas.
Est-ce qu'il y a un travail justement de contextualisation, puisque justement ça fait longtemps que tu n'as plus 20 ans? Et comment tu... est-ce que tu te poses quand même des questions,
ouais.
Savoir, je suis en train d'écrire un roman pour quelqu'un qui a 20 ans maintenant, qu'est-ce que pense...
Alors, je me suis quand même vachement détendue par rapport à la question. Quand j'ai écrit La quête des livres au monde, donc mes personnages ont 16 ans, je me suis fait un flip monstrueux pendant toute l'écriture du premier tome. Parce que j'avais plus 16 ans depuis longtemps. Et puis, avoir 16 ans aujourd'hui, c'est plus comme moi quand j'avais 16 ans. Donc, forcément, ça peut plus être la même expérience. Pardon. Et puis, il y avait toute la question du langage qui se posait. Est-ce que je l'ai fait parler Jones ? Ou est-ce que j'utilise un langage plus classique, au risque de paraître un garde, genre les gens ils parlent comme ça quoi. Même moi je parle pas comme j'écris, hein. Mais le langage Jones, ça a aussi la particularité de vieillir très vite, hein. On parle comme ça et dans 2 ans on parlera autrement et les mots qu'on utilisait ils vont paraître super ringards 3 ans après et donc ça va donner peut-être un ancrage dans le temps au bouquin qui va être trop visible. Et donc, je me suis pris la tête pendant l'écriture de La quête des livres monde où j'étais vraiment angoissée à cause de cette question parce que je voulais que les lecteurs puissent s'identifier à mes personnages. Je voulais pas être à côté de la plaque. Je voulais pas avoir l'air d'être trop vieille, ni de vouloir être une vieille qui veut imiter les jeunes. Enfin bon, c'est compliqué. Et donc, je me suis vraiment pris la tête. Mais vraiment, pendant toute l'écriture, à chaque réplique, à chaque truc, je me disais, est-ce que ça se dit? Est-ce que ça va paraître pas trop? Et puis finalement, le bouquin est sorti. Et il a été sélectionné au prix des Incorruptibles et j'ai rencontré pour ce bouquin 3000 collégiens. Donc là, quand même, bon panel de lecteurs, hein, 3000 collégiens qui l'ont lu. Et alors là, la question qui revenait sans ça, c'est comment vous avez fait pour vous identifier aussi bien à quelqu'un de 16 ans ? Et là, et du coup, je me dis, mais pourquoi je me suis pris la tête comme ça, en fait ? Donc je me suis dit, il faut que j'arrête de me poser autant de questions. Il y a un moment aussi, il faut écrire comme on le sent, et ça sort, et puis on l'écrit, et puis voilà. Et alors après, il y aura toujours des gens pour pas aimer, hein, ça fait partie du jeu, hein. On met un livre, comme moi, il y a des livres que j'aime pas, il y a des gens qui aiment pas mes livres, et qui vont en plus le dire parfois avec un certain acharnement sur la toile. C'est comme si j'avais tué leur mère. C'est... mais bon, je n'ai fait qu'écrire un livre. Tu n'es pas obligé de le lire, même pas en entier, si tu ne l'aimes pas. Mais c'est pas grave. Mais ça fait partie du jeu d'avoir des gens qui l'aiment pas. Donc après, il faut arrêter aussi un moment de stresser parce que on écrit l'histoire, elle vient, et c'est comme ça qu'elle nous vient. Et si c'est comme ça qu'elle nous vient, c'est qu'on est dans le vrai par rapport à cette histoire, à mon avis. Et vouloir se forcer à faire autre chose, ce serait dénaturer certainement notre style, notre écriture, le but qu'on veut se donner dans l'histoire. Donc je me suis beaucoup détendue. Ah, au début, je stressais, ouais. Là, ça va mieux. Je pense que c'est pas impossible. Maintenant, à partir de quel âge on est un adulte ? Je sais pas. Hein. Parce qu'il y a le préadolescent, l'adolescent, l'adolescent, l'adulte. Il y a un moment où ça fait beaucoup de catégories. Maintenant, c'est pas impossible. Je pense que c'est même tout à fait jouable. Il faut quand même garder des préoccupations du héros qui vont intéresser la personne qui va lire. C'est-à-dire que un livre young adulte avec un héros de 90 ans qui marche avec un déambulateur et qui cherche ses dents tous les matins, je suis pas sûre de trouver mon public en young adulte dans cette catégorie-là. Un héros de 40 ans qui est en plein divorce et en plein « je cherche mon identité parce que tout ce que j'ai construit s'est détruit et maintenant comment je peux reconstruire et tout », est-ce que c'est des préoccupations qui peuvent intéresser le young adulte ? Je sais pas. Voilà. Maintenant, oui, peut-être. Après, en trouvant un angle particulier, ça peut être ça peut être quelque chose d'intéressant à traiter. Voilà. Mais j'en doute quand même. C'est-à-dire que je pense que l'adolescent young adulte reste quand même dans des préoccupations de construction de soi. Et c'est ce que je dis souvent. J'aime, moi, justement, dans le héros jeune, c'est toutes les possibilités qu'il a. C'est-à-dire qu'il est en construction. Et il a tellement de choix devant lui que même moi, je peux lui faire prendre n'importe quelle route. Et ce sera toujours intéressant. Et je pense qu'à arriver à un certain âge, c'est peut-être un peu moins intéressant parce que le personnage, il se traîne toutes ses casseroles et tous les machins, etc. Et les possibilités sont peut-être pas aussi vastes après un certain âge, j'en sais rien. Mais je parle pas dans la vie quotidienne, je parle vraiment du héros qui part à l'aventure. Wouh, super dynamique, allons-y, allons sauver le monde. Souvent, dans la littérature jeunesse et young adulte, sauver le monde, c'est aussi se sauver soi, se créer soi, se définir soi-même par rapport à ses responsabilités, par rapport aux épreuves qui nous attendent, quel choix on va faire ? Est-ce que je fais le choix d'être gentil ? Est-ce que je fais le choix d'être méchant ? Est-ce que je fais le choix d'aider ou d'ignorer ? Est-ce que je fais le choix d'endosser une responsabilité comme sauver une planète entière dans la quête des livres au monde ou je fais le choix d'ignorer parce que j'ai pas envie, hein, c'est trop de boulot ? Voilà. Et ça, c'est un peu le choix qu'on a à faire à un moment dans sa vie. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'être plus tard ? Comment je me projette moi plus tard ? Et ça, c'est quand même plus facile avec un héros plus jeune, je pense. Maintenant, je pense pas que ce soit incompatible de faire un héros plus âgé avec d'autres préoccupations, mais il faut trouver le bon angle et la bonne histoire qui puisse trouver un écho dans le lecteur, c'est tout simplement, à mon avis. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Voilà, exactement. Donc je pense que il faut quand même qu'il y ait une identification quand on lit un livre. Après, on n'est pas obligé d'avoir une identification quand on lit... On peut lire de la littérature vieillesse quand on est plus âgé, comme on fait quand on est au collège, au lycée, qu'on va nous imposer une lecture et qui peut être très agréable et qui va raconter des choses de personnes plus âgées avec des problématiques plus compliquées, des choses comme ça. Ça n'empêche pas. Mais pour la lecture loisir, le voyage extraordinaire, l'imaginaire, etc., à mon avis, il faut quand même qu'il y ait un écho, qu'il y ait quelque chose. Et que si le personnage est trop âgé, genre on se dit ça pourrait être ma mère, est-ce que ça me fait vraiment rêver ? Je sais pas. Voilà. Après, moi je dis rien, tout est possible, hein, mais il faut avoir vraiment la bonne idée qui va toquer là. Sinon, je pense qu'on peut se planter facilement. Je t'entends pas bien.
Est-ce que vous avez un principe de quête obligatoire au plus adulte pour la littérature ?
Je crois que globalement, il y a toujours une quête, même si elle n'est pas apparente. Quand j'écris la quête des livres au monde, c'est une quête. Hein. Ça, c'est écrit sur la couverture, trois fois, on ne peut pas se tromper. Mais je pense que la plupart des bouquins, c'est quand même une quête, même si c'est, ça paraît pas. Quand on prend une dystopie, bah, comme Delirium par exemple, où l'environnement, c'est, on opère les gens pour qu'ils aient plus de sentiments, que l'amour est considéré comme une maladie. La quête de l'héroïne, ça va être de faire tomber tous ces préjugés et de prouver que non, c'est pas vrai, et que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau, etc. Alors, c'est pas identifié comme une quête à proprement parler, mais c'en est une. Voilà. Quand on va lire un roman de science-fiction, quelle qu'elle soit, ça peut être la quête d'une autre planète, ça peut être la quête d'un autre temps, d'autres choses, mais je crois qu'on est quand même, ouais, toujours dans la quête, mais je crois que l'humain, en général, est dans la quête de quelque chose... Même si c'est d'arriver au vendredi soir pour vivre le week-end dès le lundi matin, c'est quand même une quête. Hein. On est dans la quête perpétuelle. Donc à mon avis, les histoires sont en général ont des forts échos de quête, même si c'est pas identifié comme ça. Oui. Tu me fais peur. Méchant. J'ai dit que pour l'instant je voyais pas l'intérêt d'écrire des dystopies, hein. Parce que je trouve qu'il y en a beaucoup et que je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Donc parce que je trouve que tout a été très bien dit. Donc bon, Sherlock. Mais j'adore le personnage de Sherlock Holmes depuis très longtemps. J'ai lu les romans de Conan Doyle et j'adorais la série de Granada des années 80 avec Jeremy Brett. J'adore la série actuelle avec Benedict Cumberbatch. C'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est un super-héros à sa façon. On rejoint toujours le thème du super-héros, sauf que lui, il a un super intellect et une super capacité d'observation, de déduction, etc. Donc pour moi, c'est un super-héros avec tout ce qu'il a, ça comporte aussi de névrose, hein, parce que le super-héros, pour moi, est toujours un personnage névrosé, qui doit faire face à sa double identité, à ses responsabilités, à ses pouvoirs. Et donc Sherlock en est l'exemple type, hein, ultra névrosé. Donc pour moi c'est un super-héros au même titre que les autres, l'humain super-héros. Mais alors une dystopie avec Sherlock là, non, ça va pas être tout de suite en tout cas. On en reparlera dans 10 ans si tu veux. Alors là, on m'a posé cette question 100 fois, surtout quand je faisais les rencontres dans la quête des livres au monde, tout le monde disait ça ferait un super film, les ailes, machin et tout. Le problème, c'est qu'en France, ce genre de cinéma, ça se fait pas trop. Hein. Tous les films ont été adaptés par les Américains. Même Harry Potter, même si c'était fait en Angleterre, c'est quand même la Warner, c'est américain, grosse machine américaine, etc. On n'est pas dans cette culture en France. Les films français qui traitent de ce genre de littérature, vous en avez vu beaucoup. Voilà. Donc, à moins d'être repéré par un producteur américain, il faut quand même un paquet de chance, à mon avis. Je suis pas sûre que ça arrivera un jour, malheureusement. Après, on sait jamais, hein, y a des miracles qui peuvent arriver, un truc extraordinaire, genre... Oh, il vient en vacances en France, il sait lire le français, il achète mon bouquin par hasard dans une librairie et il adore. Mais alors, rien que ça pourrait être l'histoire d'un roman, quoi. Donc pour l'instant, malheureusement, il n'y a aucune piste de ce côté-là et il y a peu de chances que ça arrive un jour. Et je pense qu'on est nombreux ici en auteurs jeunesse français qui sommes capables d'écrire des très belles histoires et des histoires incroyables. Moi, je lis beaucoup de. En faisant des salons, j'ai découvert beaucoup d'auteurs français que j'ai lus ces derniers mois et j'ai fait des découvertes incroyables de littérature française en disant ouais, mais voilà, il y a des trucs chez nous incroyables qui sont déjà pas traduits, qui restent en France ou dans les pays francophones et donc qui ont très peu de chances d'arriver un jour sur la table d'un Américain parce que justement c'est pas en anglais. Donc ça fait beaucoup de barrières. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a comme belles histoires dans notre pays écrites par des Français? Quel dommage, quel gâchis! En jeunesse que j'ai lu, le truc c'est que j'ai un peu une mémoire, comme j'en lis beaucoup, je suis capable de me souvenir de ce que j'ai lu en dernier, mais ce que j'ai lu l'année dernière, il y a peu de chance. Là, ces derniers temps, y a Yves Grevet qui est là. J'ai lu Nox. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était un monde vraiment original. Il y a Marie Plavlenko. Je ne sais pas si elle est partie, mais je l'ai vu la traîner. Et j'ai lu Saskia il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, j'avais mis sur mon Twitter. Oh, j'ai adoré. Ça m'a vraiment fait voyager. C'est vraiment, vraiment adoré. En français encore, qu'est-ce que j'ai adoré ? À l'international, là, deux bouquins qui. J'en ai eu l'un, et là, j'ai adoré, c'est de Maze Runner. Je sais pas, en français, c'est le labyrinthe, là, le coureur. Hein ? L'épreuve, c'est ça ? Bon, en anglais, c'est de Maze Runner, c'est des gens qui courent dans un labyrinthe et tout. J'ai adoré. Ah, mais vraiment adoré. Là, je l'ai dévoré. Et j'ai lu justement Pure. Alors ça a été une grosse claque parce que justement l'auteur était sans concession. Elle écrit un monde post-apocalyptique horrible et elle va à fond dans l'horreur. Enfin, il y a des moments, c'est waouh, c'est et je me suis dit voilà. Alors elle, pour le coup, la question de la censure, elle y va. Mais j'ai trouvé ça fort justement. Alors il y a des gens qui n'ont pas aimé du tout et je peux comprendre parce que ça, c'est des images dans la tête. Qui peuvent être difficiles, mais vraiment c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé. En français, d'ailleurs je suis en train de faire la bêta lectrice du troisième tome des Dolce de Frédéric Petitjean que j'ai adoré. Donc moi je suis en train de savoir tout ce qui se passe dans le tome 3 avant tout le monde. Et alors ça c'est vraiment une super saga que je conseille aussi. Il y en a plein en fait. Après c'est dur parce que je vais regarder, je me dis, oh, j'ai oublié de parler de celui-là, mince. Mais bon, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup et voilà. Plus de questions, c'est bon, vous savez tout. Demain je fais une interro écrite, c'est bon, vous savez tout. Non, moi je suis là pour répondre aux questions des gens. Je ne sais pas quoi dire de plus. Merci beaucoup, c'était sympa. Si je suis en dédicace là juste après à la librairie, voilà, comme ça vous savez où me trouver si, parce que je vois qu'il y a des livres et tout. Donc je suis en bas à la librairie juste après. Ah, il y a Gabriel qui repart à la table. Vas-y Gabriel.
En fait, c'est pas une question, mais en fait vous la croyez pas, elle va faire un film et il va cartonner.
Que le ciel t'entende, Gabriel. Et Gabriel aussi, c'est un super auteur français. Voilà. Et justement, je veux lui acheter son livre, là. Je lui ai dit tout à l'heure que j'allais lui prendre son livre. Donc, voilà, voilà.
Je vous remercie. Merci.